Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, nous allons aujourd'hui continuer notre, notre visite des écrivains du Moyen-Âge, c'est-à-dire les troubadours. Alors, j'ai un livre sous les yeux qui s'intitule « Écrivains anticonformistes du Moyen-Âge occitan, la femme et l'amour ». C'est une anthologie bilingue par René Nelly. Alors, bien sûr, je vous donnerai les textes en français. Alors René Nelly, l'auteur, il est né à Carcassonne en 1908 d'une famille d'originaire de Florence, installée dans le milieu de la France depuis le XVIe siècle. Alors, traducteur, exemplaire de poésie des troubadours, poète lumière, il fonde avec Jean Cassou et Tristan Zara l'Institut d'études occitanes qui existe toujours et qui prendra une part active à l'actuelle renaissance de la littérature en Pays d'Oc. Les études qu'il a consacrées à la civilisation occitane médiévale, alors érotique des troubadours, rapport entre catharisme et littérature, l'ont amené à corriger bien des idées reçues imposées depuis près de 7 siècles par l'histoire officielle à travers ses textes et toute notre vision d'un monde qui se trouve mise en cause. Tout un passé au reste étrangement présent qui se révèle enfin dans la richesse de ses contradictions, de ses ambiguïtés et dans son intime vérité. Alors, donc ce livre qui a quand même 300 et quelques pas, presque 400 pages, et la quatrième de couverture nous dit ceci. Les troubadours, chantres quasi religieux de la fine amour, étaient-ils aussi sages que l'histoire officielle a bien voulu nous l'enseigner? Nombre d'allusions inscrites en filigrane dans les œuvres célèbres auraient dû nous alerter. Qui trop fait l'ange, fait le diable. Pour en avoir le cœur net, René Nelly a eu l'idée de rassembler dans une anthologie qui sort résolument des sentiers battus tous les textes qui, par de leur caractère scandaleux ou hérétique, ont été traditionnellement écartés des florilèges de la langue d'oc. Le premier volume de cet imposant recueil, publié ici en édition bilingue, est consacré à l'érotique des troubadours et c'est toute l'imagerie de la courtoisie amoureuse qui se trouve brusquement éclairée d'un jour neuf, car nous découvrons texte à la pluie que le pur amour, si fort célébré dans les cours méridionales, n'était pas aussi pur que cela. Tant il s'en faut, toute une littérature réaliste profondément charnelle a existé au siècle d'or de la poésie occitane. La mise au jour de cette littérature, signé souvent par les plus inspirés d'entre les poètes du temps, amènera n'en doutons pas à remettre à leur place bien des idées toutes faites, ainsi et surtout par-delà l'intérêt historique évident d'une telle entreprise. L'acteur est pris de poésie et aura de rares plaisirs de découvrir des textes d'une étonnante saveur, riche de vie, de sève et d'enseignement. Alors il y a un second volume qui est consacré aux mystiques et aux politiques anticonformistes à la littérature d'oc et qui réunit des textes cathares, vaudois et franciscains. Alors ce livre était édité donc aux éditions Phébus en 1977. Alors il y a une traduction qui est assez longue d'ailleurs, Nelly, je ne vais pas vous la donner toute entière, simplement le début. Il existe une imagerie à propos des troubadours qui a la valeur de toutes les imageries, séduisante, rassurante, j'entends le penchant que tout un chacun a l'évocation d'un passé bien ordonné, bien élevé. Mais pour qui se penche, tant soit peu sincèrement sur ce passé, c'est-à-dire sur l'héritage concret qui nous a légué, texte aussi bien que traduction orale, la réalité apparaît tout autre, faite d'un tissu bigarré d'ambiguïté, de contradictions, d'incohérences, non d'une secrète harmonie, mais parviennent à s'en dégager au regard de qui sait la débusquer. Mais cette harmonie même, on s'en rendra compte, a bien peu à voir avec la paisible ordonnance des images qu'il est de bon ton d'évoquer dès que l'on disserte à propos de la civilisation occitane médiévale. Voilà, et donc cette introduction se poursuit, comme je vous l'ai dit, elle est assez longue, et finalement, voici la fin de ce texte. Mon désir n'est certes pas de partir ici en guerre pour rétablir à la face du monde de quelconque vérité. Donc je ne me dissimule pas un instant le caractère doucement illusoire. J'ai voulu simplement me faire le serviteur d'une réalité injustement oubliée en me reportant à la source littérale des textes qui après tout, ont plus à nous dire que les spécialistes réunis. Le lecteur d'en juger, savourant tel quel, et pour lui-même, c'est-à-dire son plaisir, autant que pour son édification. Ces œuvres, dont 7 siècles n'ont altéré ni la subtile simplesse, mais ne nous y trompons pas, cette simplicité est un piège, ni l'incomparable fraîcheur. Alors, ça a été Carcassonne en 1967, et bien sûr, c'est une introduction de René Nelly. Alors, j'ai quand même fait un tri dans ce carré, parce que sinon, je risquerais d'être censuré. Voilà, alors donc, Guillaume IX d'Aquitaine, qu'on a déjà parlé, qui était, je crois, le grand-père d'Aliénor, a écrit un poème qui intitule « Les deux cavales ». Alors, compagnon, je vais composer un vers bien convenable, il y aura plus de folie que de sagesse, et il sera tout mêlé d'amour, de joie et de jeunesse. Tenez-le pour un rustre, celui qui ne le comprend pas ou qui volontiers ne l'apprend pas par cœur. Mais il pourra difficilement se séparer de l'amour, celui qui le trouvera à son goût. Pour ma selle, j'ai 2 chevaux bons et beaux. Ils sont forts, dressés au combat et vaillants. Mais je ne puis les garder tous deux ensemble, car l'un ne peut souffrir l'autre. Si je pouvais les dompter à ma guise, je ne placerais pas sur d'autres mon équipement. Je serais mieux monté en chevaux que personne au monde. L'un fut parmi les chevaux de montagne des meilleurs coureurs. Mais depuis longtemps, il est entré en farouche rébellion et il est devenu si rétif et si sauvage qu'il se dérobe à l'étrier. L'autre fut élevé là-bas, au-delà de Confolence. Jamais, par ma foi, nous n'en vîmes un de plus beau. Celui-là, je ne changerai ni pour or, ni pour argent. Je le donnais à son maître, c'était encore un poulain paissant. Mais je me réservais sur lui des droits suffisants. Il fut convenu que son maître, le gardant 1 an, je l'aurais pour moi plus de 100. Chevalier, conseillez-moi dans mon doute, jamais choix ne me causa plus d'embarras. Je ne sais à laquelle je dois m'en tenir, d'Agnès ou d'Arsène. J'ai de Gimelle le château et tout le domaine, et la possession de Niol, et me rend orgueilleux à la face de tous, car l'un et l'autre m'ont engagé leur foi par serment. Alors, Gimel et Niol, bon, mais sont 2 qualités voisines de Confolence dont on parlait à l'instant et qui appartenaient donc à Guillaume IX, duc d'Aquitaine. Alors, donc on va continuer un petit peu. Et il y a Rimbaud de Vaquerias. Alors, Rimbaud de Vaquerias n'est pas évidemment périgourdais. Il est natif de Vaquerias, comme je disais, canton de Beaune, dans le Vaucluse. Alors, il est issu d'une famille de petite noblesse, et puis, il est sur les terres du prince d'Orange, son premier protecteur. Il s'attacha ensuite au marquis Boniface de Montferrat. Alors, voilà ce qu'il écrit, l'intraitable génoise. « Dame, je vous ai tant prié de me vouloir aimer que je suis devenu, ne vous en déplaise, votre fidèle vassal. Vous êtes noble et bien enseigné et doté de tous les beaux mérites. C'est pourquoi j'ai envie de votre amitié et vous êtes si courtoise dans toutes vos actions que mon cœur s'est fixé en vous, plus fermement qu'en toute autre génoise. Si vous m'aimez, ce sera grand merci, je n'en trouverai mieux payé. Et si l'on me donnait votre cité avec tous les biens que amenaient les génois, jongleur, elle lui répond ceci, jongleur, vous vous montrez bien mal élevé en m'adressant pareille demande à laquelle je n'accéderai point. Fussiez-vous à mes pieds, je ne serai point votre ami, pour sûr je vous étranglerai plutôt, provençal de malheur. Et voici les noms dont je vous traite, vous êtes un saligo, un vaurien, un teigneux. Jamais je ne vous aimerai, mon mari est plus beau que vous. Cela ne fait aucun doute, je le sais parfaitement. Passez votre chemin, frère, et à des temps meilleurs. Alors, c'est un poème qui est assez long. Donc, on va revenir quand même un petit peu en Périgord avec Giraud de Borneuil et dans un poème avec le roi d'Aragon. Et il se donne la réplique. Alors, le roi d'Aragon dit au début, Giraud de Borneuil, si à me défendre, je n'employais pas moi-même toute ma science, je sais bien où vous voudriez en venir, mais je vous considérerai comme peu sensé si vous pensez que du seul fait de ma puissance, je dois avoir mieux de valeur que n'importe quel amoureux sincère. Dans cet esprit, vous pourriez aussi bien estimer davantage un denier que Marc d'argent. Que Dieu me sauve, Seigneur, aussi vrai que je crois qu'une dame qui ne connaît en valeur ni se déshonorera jamais pour de l'argent et en fera jamais son amant, d'un roi ou d'un empereur, ma pensée est qu'elle n'y gagnerait rien parce que vous autres, les puissants et les superbes, ne cherchez rien d'autre en elle que jouissance. Giraud, quoi de plus beau pourtant qu'un grand seigneur qui sache honorer, respecter sa dame et unir à la puissance la sincérité du sentiment. Et pourquoi du fait, comme elle l'a comme suzerain, là, une dame apprécierait-elle moins la valeur d'homme, du moment qu'elle ne découvre en lui ni vidé ni insolence. Il faut bien rappeler le proverbe, qui peut le plus prend le meilleur. Alors, je vais arrêter là, la suite, ma foi, est pas trop correcte, si l'on peut dire. Alors, bien sûr, il y a aussi des femmes, comme on disait la dernière fois, les tourbarises. Alors, Béatrice de Romans. Alors, Romans, c'est dans la Drôme, et elle est la patrie de Folquet de Romans, mais il n'y a aucun rapport, semble-t-il, entre le troubadour et cette mystérieuse troubarise que nous n'ai pas autrement connue. Son poème « Dame Maria » est plus mystérieux encore. Il est le seul de toute la littérature provençale, à notre connaissance, qui est écrit par une femme, soit une déclaration d'amour adressée à une femme. Alors, on va voir un peu cette déclaration. Dame Marie, mérite et fine valeur, joie, esprit et rare beauté, votre façon d'accueillir et de faire honneur, votre prix, votre doux langage et votre aimable conversation, votre gentil visage et vos manières enjouées, votre doux regard et vos mines amoureuses, toutes ces qualités qui sont vôtres et qu'on ne saurait égaler ou attirer vers vous mon cœur, sans nulle vilénie. C'est pourquoi je vous prie, s'il vous agrée, que fin amour et plaisir et douce bonté puissent mettre auprès de vous d'un tel secours. Que vous consentiez à me donner, belle dame, s'il vous plaît, ce dont j'espère avoir le plus de joie, car c'est en vous que j'ai mis mon cœur et mon désir. Par vous que j'ai tout ce qui est en moi d'allégresse, pour vous je vais poussant maints soupirs, et comme la beauté et le mérite vous élèvent au-dessus de toutes les femmes et qu'aucune ne vous surpasse. Je vous prie, s'il vous plaît, et parce qu'il y va de l'honneur de ne pas accorder votre amour à un amant grossier, belle dame, en qui prix et joie s'exaltent, ainsi que gentil langage, je vous adresse mes strophes et vous réside gaieté et allégresse, et tout le bien qu'une femme peut faire désirer. Voilà, donc c'est une femme qui s'adressait, ben, ma foi, à une autre dame. Alors, il y a bien sûr d'autres troubadours. Il y a par exemple Bernard d'Auriac. Alors, Auriac, bon, c'est quand même plus, un peu plus chez nous que la Drôme. Alors, Bernard d'Auriac, appelé parfois le maître de Béziers, appartient à la période de décadence, fin du XIIIe siècle, avec ses quatre pièces, la plus intéressante. Évoque l'expédition de Philippe le Hardi en Catalogne en 1284. Alors voici ce qu'il écrit, donc un poème qui s'intitule « La partie d'échec », vous en donnez le début. « Si j'avais assez de savoir et d'esprit pour composer de bonnes paroles sur un air nouveau, c'est volontiers que je ferais une chanson, car le talent ne vaut rien si on ne le prodigue pas. Et si vous aviez 1000 marques d'or ou d'argent, et que nuit et jour vous ne les teniez cachés, ce trésor ne vous serait d'aucun profit. Ainsi l'esprit, malgré les gens de prix, n'existe pas tant qu'il n'est pas traduit en fait et en parole. Celui qui tire de ce qu'il a à dire d'un beau sujet, on ne doit pas craindre qu'il prenne le oui pour le non. Et moi, le sujet sur lequel je sais m'exprimer est si noble que pourvu que je le dise vrai, je ne puis pas errer. Savez-vous quel est ce sujet? Non, je suis le seul et jamais personne, pour intime que nous soyons, je ne le dévoilerai. Pourtant, ce qu'on pourrait savoir, c'est que jamais n'eut de plaisir d'elle qui ne fût son ami, et dans la seule mesure que j'en suis amoureux. Voilà. Ainsi voudrais-je bien, sans mauvaise intention, jouer avec madame, en sa maison, une partie d'échecs, sans d'autres compagnons, vint s'entremettre au jeu. Voilà. Bien, je vais arrêter là cette lecture des écrivains anticonformistes du Moyen-Âge, donc La femme et l'amour, anthologie bilingue, par René Nelly. Je vous souhaite une bonne semaine, avec, je crois, beaucoup de soleil, et à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.